Il est 7h30 et c'est parti pour le journal. Benoît Buquet, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. On ouvre le débat aujourd'hui sur Radio Inter FM sur le service public dans le transport aérien avec cette question: comment financer les lignes aériennes déficitaires vers les îles? L'opinion de Franck Maillet dans un instant. Il est le président de la société Islands Airlines, future concurrente d'Air Tahiti. C'était le référendum du week-end en Nouvelle-Calédonie. 56,4% de vote contre l'indépendance. Résultat serré avec 80% de participation. Le Premier ministre a annoncé une réunion de bilan au mois de décembre avec toutes les forces politiques du pays. À Tahiti, le Tavini a parlé hier d'un désaveu pour la France coloniale. Et puis l'élection de Miss France dans un mois. Vaïma Lama Chavez se dit plus déterminée que jamais. Elle quitte Tahiti aujourd'hui pour prendre la direction de la France en attendant l'élection le 15 décembre à Lille.
Et on commence ce journal avec le débat sur le service public dans le transport aérien et cette question: comment financer les lignes vers les îles déficitaires?
C'est le cas de la grande majorité des liaisons aériennes domestiques dans ce pays. Elles ne sont pas rentables depuis février 2016. Donc 2 ans et demi, le pays est censé rédiger une loi pour leur trouver un financement pérenne. Et l'attribution forcée par le tribunal d'une licence à Islands Airlines il y a 2 semaines a peut-être accéléré le calendrier. Islands qui sera opérationnel dans 1 an sur les lignes qui rapporte. Le pays a donc 1 an pour définir sa politique des transports interinsulaires. Écoutez Franck Maillet, le président de la compagnie Islands Airlines. Il espère en tout cas, lui, être consulté par le pays sur le sujet.
C'est le pays qui, effectivement, dans sa stratégie, doit définir les dessertes à effectuer, en tout cas celles qui souhaiteraient continuer à voir desservir, et par rapport à ça, établir un plan. Et ce plan doit être discuté avec les opérateurs, ce qui est la moindre des choses. Donc, c'est au pays de faire des propositions, à nous de voir si elles sont viables. Évidemment, on ne souhaite aucunement qu'une disposition soit mise en place qui mettrait en danger la survie des opérateurs.
Alors pour l'instant, le seul modèle de financement présenté dans le schéma directeur des transports depuis 2015, c'est un système de taxes sur les lignes rentables pour financer un fonds de désenclavement. Mauvaise idée, estime Franck Maillet.
L'essence même de l'arrivée de d'un concurrent, hein, c'est de faire baisser les prix. Alors si effectivement aujourd'hui la logique est de dire, un nouveau concurrent arrive, il va falloir qu'on trouve un moyen de financer les desserts des îles éloignées et structurellement déficitaires en mettant des taxes sur les billets d'avion, il est évident que ça va réduire l'intérêt de l'arrivée d'un concurrent. Parce qu'au final, qui va payer cette taxe, c'est la population. Et cette taxe aura évidemment un effet sur les prix des billets d'avion. Donc non, évidemment, on fera en sorte de défendre le fait que cette idée-là serait une mauvaise idée, en tout cas une mauvaise idée par rapport à l'impact positif que devrait avoir l'arrivée d'un concurrent sur le secteur aérien.
Franck Maillet qui réclame un financement public au moyen de subventions du pays ou de l'État.
Disons qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps que le pays, notamment grâce à un excédent fiscal, à des recettes fiscales supplémentaires, avait un budget excédentaire. Mais écoutez, effectivement, le budget du pays pourrait être une solution pour tout ou partie du coût de ces dessertes, mais il ne faut pas négliger non plus la possibilité d'aller chercher des fonds d'État au travers de la continuité territoriale. La Corse bénéficie de ce type de financement, donc la Polynésie, de par son éloignement, pourrait également en bénéficier. Et puis, si on parle effectivement de taxes, puisque c'est prévu dans le schéma directeur, on peut peut-être imaginer un système de taxes qui soit un peu plus, on va dire, général, qui touche beaucoup plus de monde que simplement les billets d'avion, de façon à ce que ça soit totalement indolore. En réalité, ça permettrait d'obtenir, de dégager des ressources pour financer les dessertes des îles éloignées. Ça toucherait beaucoup plus de monde, mais ce serait totalement indolore pour chacun d'entre nous, et ce qui permettrait de favoriser, si vous voulez, les effets positifs de l'arrivée d'un concurrent.
Voilà, interview de Franck Maillet d'Islands Airlines. Je souligne que Radio 1 a cherché à contacter la semaine dernière à la fois le pays et la société Air Tahiti. Ni l'une ni l'autre n'ont accepté de s'exprimer. Il y a une réunion entre Air Tahiti et le pays cette semaine sur le sujet, nous a dit Manate Vaevich. Dossier complet à retrouver sur radio1.pf.
Et du côté de chez United Airlines, il n'y aura pas de pénalité en cas de vol manqué.
La compagnie américaine cherche à se démarquer sur le marché avec une politique commerciale qui consiste à ne pas faire payer de pénalité lorsqu'un passager rate son vol, et ceci quel que soit le prix d'achat du billet. Sam Charroy, basé à Paris Charles de Gaulle et membre de l'équipe Global Support de United Airlines, il évoque le cas d'une jeune passagère qui a raté son vol mardi à Tahiti. La compagnie l'a aussitôt remise sur le vol suivant sans pénalité.
Si la personne se présente dans les 2 heures qui suivent l'heure du départ ou qui contacte United et on l'a reprotégée aujourd'hui, sans frais bien sûr.
Est-ce que ce sera comme ça tout le temps ?
Alors jusqu'à maintenant, c'est une politique qu'on pratique, c'est une réglementation, c'est marqué dans nos procédures. Donc le client qui arrive en retard, c'est pas sa faute, souvent il est dans les bouchons ou il y a eu un incident de dernière minute. On offre la possibilité à nos clients d'être mis sur le vol suivant sans frais. Voilà.
Et vous l'avez compris, ça marche donc jusqu'à 2 heures maximum après le décollage. Ces propos étaient recueillis par Vaïté Oudal et Pambrun.
Et atterrissage sur le Caillou maintenant. C'était le référendum ce week-end et la Nouvelle-Calédonie a voté à 56% pour le maintien dans la France.
Le non à l'indépendance l'a emporté dimanche, ou plutôt samedi pour nous à Tahiti. La mobilisation a été forte, 80,63% de participation. Le résultat a donc du sens et il est beaucoup plus serré que ce que les sondages annonçaient avant le scrutin. 56,4% des électeurs ont voté en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Pendant le dépouillement, des tensions sont apparues sur le Caillou. Une route a été bloquée avec des pneus brûlés dans les quartiers nord de Nouméa. Des gendarmes ont été mobilisés avec un hélicoptère, des véhicules blindés de l'armée. Tensions qui se sont maintenues pendant la visite du Premier ministre en Nouvelle-Calédonie ce lundi. Édouard Philippe qui s'est félicité, je le cite, d'un succès démocratique et qui a annoncé une réunion de bilan au mois de décembre avec toutes les forces politiques du pays, notamment pour répondre à cette question. Y aura-t-il un deuxième référendum dans les prochaines années comme le prévoyait l'accord de Nouméa en 98?
Et à Tahiti, le Tavigny a parlé hier d'un désaveu pour la France coloniale.
En soulignant les 43,6% de oui à l'indépendance, le Tavigny parle d'une poussée majeure du camp indépendantiste. Le Tavigny Huitatila qui invite la France à organiser chez nous, donc en Polynésie française, un scrutin d'autodétermination pour que les Maoris se prononcent pour ou contre l'accession de Maui Nui à son indépendance. Fin de citation. Samedi, une centaine de voitures avec des drapeaux bleus du Tavigny et des drapeaux kanak du FLNKS ont fait le tour de l'île. C'était à la fois donc un soutien à l'indépendance de la Kanaky, un hommage à Puvana et une protestation contre l'inéligibilité infligée à Oscar Temaru.
Et 2 faripotés du parc Paofei sur le front de mer ont été incendiés ce week-end.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un premier faripoté avait pris feu. Une enquête avait été ouverte et confiée à la direction de la sécurité publique pour connaître les circonstances exactes de cet incendie. Et hier soir, un second faripoté a été incendié.
L'élection de Miss France, dans environ un mois, Vaimalama Chavez se dit plus déterminée que jamais.
C'est dans 40 jours, l'élection a lieu le 15 décembre à Lille. Vaimalama Chavez quitte le Fénois aujourd'hui. Elle passera une semaine à l'Alliance française de Fresno en Californie, puis rejoindra ensuite Paris. Elle insiste en ce moment sur sa préparation physique.
Pour Miss Tahiti, j'ai inclus une grande dimension sportive dans mes journées. Donc à raison de 2 heures à 3 heures de sport par jour, 6 fois par semaine, du cardio, de la musculation, de la gymnastique, de l'athlétisme un petit peu, des randonnées. Et quand c'est possible, je vais faire du surf aussi. Et à côté de ça, y a les cours de maquillage, les cours de coiffure qui sont quand même importants puisque c'est ce qui te permet un petit peu d'être présentable aux yeux du comité de Miss France et afin qu'ils puissent sonder ta potentialité en tant que Miss France. Voilà en gros comment se passent mes journées.
Malama Chavez qui fêtera donc ses 24 ans durant la préparation. Elle sera l'une des candidates les plus âgées et elle rappelle que la dernière victoire d'une Tahitienne à Miss France, c'était il y a 20 ans.
Je serai très fière parce que ça fait 20 ans que la couronne n'est pas revenue à Tahiti, à la Polynésie, et que je serai très heureuse de le partager autant avec la famille de Miss Tahiti qu'avec toute la Polynésie. Et puis ça va être une aventure plus grande encore qui s'ouvre à moi, des horizons plus vastes que je pourrai découvrir et parcourir. Et que quel que soit le résultat ce soir-là, j'aurai déjà gagné de toute façon.
Vaimalama Chavez s'interrogeait juste avant son départ par Valentine Bluet.
Et le 20e concours Te Hainui, les couteaux de feu avaient lieu ce week-end.
C'était au Sofitel Tahiti Yaora Beach, l'ancien méridien. Hikitei Piokoe a remporté le prix du meilleur espoir. Emana Le Hartel a été sacré dans la catégorie amateur. Et Heimana Ondi Colberry dans la catégorie professionnelle. Retrouvez les plus belles images de ce concours sur radio1.pf.